Alors, dans la boîte noire, on a la division du travail préfectoral, l'inconscience structurale, l'éthos préfectoral, l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ses circulaires d'application successives, les tâches d'admission, les tâches d'éloignement. Voilà, Alexis Pire est notre invité aujourd'hui. Il publie Étrangers à la carte, l'administration de l'immigration en France de 1945 et à 1975. Et avec lui, on essaye de comprendre le fonctionnement de l'administration de l'immigration durant cette période. Et puis peut-être qu'on dira quelques mots sur comment ça a évolué depuis 30 ans.
Alors, pour revenir donc dans la période, il y a la période coloniale et il y a la période de la décolonisation. Et ce que tu montres donc dans le livre, c'est qu'il y a des logiques qui restent les mêmes entre la période coloniale et la décolonisation, et puis après...
Alors, des logiques qui restent les mêmes, il faut peut-être rentrer un peu, mais il faut peut-être en dire un peu plus. Mais c'est vrai que l'intérêt de cette période, c'est aussi que c'est une période charnière du point de vue du passé colonial et de la décolonisation en ce qui concerne la France, puisque on a à partir du début des années 60 une vague de pays qui accèdent à l'indépendance. Alors le plus important, enfin celui qui reste marqué dans l'histoire nationale, c'est évidemment 62, la fin de la guerre d'Algérie, enfin les accords d'Évian, la fin de la guerre d'Algérie et l'indépendance, et puis bien évidemment les vagues d'immigration qui vont s'en suivre. Et là il y a plusieurs choses à dire. La première chose à dire, c'est on va retrouver, disons, cette dichotomie entre ce qui se passe du point de vue du droit, ce qui se passe du point de vue du statut de ces populations et ce qui se passe du point de vue des pratiques d'encadrement de ces populations. Pour ne parler que de l'Algérie, mais je pense que c'est un cas symptomatique, c'est un cas emblématique. Ce qui va se mettre en place, en fait, à partir de 1900. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que déjà de 1945 à 1962, enfin même avant 45, ceux qu'on appelle les Français musulmans d'Algérie sont investis en principe de la nationalité française. Alors, ils n'ont pas tout à fait la citoyenneté, puisque en Algérie, il y a toujours deux collèges électoraux et donc des droits amoindris pour les Algériens. Mais quand les Français musulmans d'Algérie sont en métropole, ils ont en principe la nationalité française. Ce qui va être ce qui va compliquer la tâche des services de police, justement, c'est que pendant la guerre d'Algérie, un enjeu, ça va être d'octroyer à ces Français musulmans d'Algérie des cartes d'identité françaises à partir de 58, et une fois venue l'indépendance, presque du jour au lendemain, il va y avoir une période de flou durant laquelle on ne sait pas vraiment la nationalité de ces anciens Français musulmans d'Algérie, nouvellement algériens, et cette période transitoire extrêmement intéressante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du point de vue du droit, là aussi, ce qu'il faut souligner, ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais c'est que le statut qui va être octroyé à ces nouveaux immigrés est extrêmement favorable, extrêmement protecteur. Pourquoi ? Parce que ce qui est négocié à Évian, c'est quand même une liberté de circulation et d'installation pour tous les Algériens qui souhaitent immigrer en France. Alors il y a des raisons historiques à cela, hein. C'est parce que à l'époque, dans l'esprit des négociateurs, il s'agit de conserver l'influence française en Algérie, et puis éventuellement aussi, il y a l'espoir que les pieds noirs vont rester en Algérie, et donc c'est une espèce d'accord de réciprocité où donc il y a liberté de circulation et d'installation pour cette partie de la population. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ce qui a été négocié par l'administration du ministère des Affaires étrangères est assez en décalage finalement avec justement les pratiques policières de l'époque et le fait que on va avoir un décalage, une dichotomie qui va s'instaurer entre ce statut de liberté de circulation et d'installation et puis au niveau des préfectures et des agents de préfecture, la nécessité d'encadrer, de surveiller, éventuellement même d'éloigner ces nouveaux étrangers avec là aussi quelque chose qui se joue dans les années 60, qui est une sorte de retour du conflit colonial, ou en tout cas presque de revanche de ce qui s'est passé, en tout cas pour pas mal d'agents de la préfecture. Troisième point, et là aussi c'est intéressant du point de vue des continuités et du point de vue de la compréhension de ces pratiques, c'est qu'il y a tout un ensemble de personnels de l'administration coloniale, des préfectures, des policiers qui étaient chargés de l'encadrement de ces de ce qu'on appelait avant les sujets coloniaux, qui une fois l'indépendance arrivée, d'une certaine manière doivent être reclassés dans l'administration française, dans l'administration métropolitaine même. Et là, ce à quoi on assiste quand on regarde à la fois les dossiers d'archives et puis quand on fait les entretiens avec les anciens agents de préfecture, c'est que il y avait véritablement à cette époque-là l'idée que il y a un savoir-faire, il y a une compétence spécifique des agents qui ont été chargés d'encadrer les populations indigènes, qui ont été chargés d'encadrer les populations coloniales, et que il y a un intérêt à ce que ce savoir spécifique se reconvertisse dans l'encadrement de ces mêmes populations qui sont désormais en métropole, qui ont plus le même statut, mais en même temps, c'est bien souvent les mêmes qui étaient français musulmans d'Algérie en Algérie et qui deviennent algériens en France. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir des trajectoires d'agents qui étaient qui travaillaient dans les préfectures et qui vont faire valoir. Alors ça pose des problèmes administratifs très compliqués parce qu'ils dépendaient pour certains du ministère de la Défense, qui vont devoir être reversés au corps préfectoral et des préfectures, mais qui vont justement essayer de faire valoir cette compétence pour conserver, disons, une prérogative et continuer à encadrer ces populations, justement parce que ces agents se prévalent d'un savoir spécifique qui leur permet de mieux comprendre que les autres cette population.
Et concrètement, mieux encadrer, ça veut dire mieux surveiller?
Alors concrètement, mieux encadrer, ce qu'ils font valoir, et là aussi c'est très intéressant, c'est une espèce de, ce que j'appelle cette compétence, c'est des distinctions infrajuridiques entre, les Kabyles sont comme ceci, comme ceci, comme cela, les Arabes sont avec une espèce de nomenclature comme ça, de catégories qui permettent de classer ces populations au-delà de leur statut juridique, et avec des, alors là pour le coup des critères ethniques assumé comme tel. Donc c'est d'abord cette forme de connaissance là, c'est se bricoler cette espèce de d'anthropologie de pacotille qui consiste à faire ce type de distinction. C'est aussi et là pour le coup il y a d'autres recherches qui confirment ce fait là, c'est que par exemple dans la gestion des bidonvilles, le fait que à l'époque c'est aussi l'époque du bidonville de Nanterre et le bidonville de Nanterre est resté symptomatique, mais il y en a beaucoup d'autres. Toute la difficulté et donc savoir surveiller ces bidonvilles, être sur le terrain, surveiller les garnis, surveiller c'est une compétence de terrain, d'homme de terrain, et c'est finalement les mêmes qui, en tout cas en partie les mêmes qui vont assumer ces tâches.
Parce qu'ils craignent. Ils craignent quoi en particulier de populations?
Si vous voulez, non, mais il faut se mettre dans le bain d'époque, c'est-à-dire la difficulté de la préfecture, la difficulté des préfectures et la difficulté de la police et du ministère de l'Intérieur en général durant ces années-là, c'est que vous avez une tradition d'encadrement de la population étrangère par la carte de séjour, par la carte de travail, où l'administration française c'est encadrer les populations étrangères justement à partir de la carte de séjour, le renouvellement de la carte de séjour, le fichier, le dossier individuel. Et là, elle est confrontée pour la première fois à une population qui est étrangère et qui n'est pas soumise à la carte de séjour, qui n'est pas soumise à la carte de travail, qui bénéficie d'une liberté de circulation. Donc elle est extrêmement démunie en fait pour contrôler, pour surveiller cette population qui échappe au contrôle bureaucratique, qui échappe aux pratiques qu'elle sait mettre en œuvre. Et donc cette espèce de connaissance de terrain, cette espèce de savoir empirique de ces populations là va tout de suite être extrêmement valorisé, justement comme une manière de trouver des modalités d'encadrement de ces populations qui ne passent pas par des moyens bureaucratiques de carte de séjour. Et donc ça va être des formes de contrôle sur le terrain, alors pas sur la carte de séjour, mais sur le fait de savoir si ces populations ont un logement, ont un travail, et la mise en œuvre de mesures d'éloignement, en tout cas d'éloignement du territoire, pour ce qu'on va appeler durant les années 60 les oisifs, c'est-à-dire ceux qui sont à la charge de la communauté nationale et qu'il faut éloigner du territoire.
cela en dehors de tout cadre légal.
Alors, c'est pas en dehors de tout cadre légal, c'est qu'il y a une clause secrète dans la convention bilatérale de 64 qui dit que, c'est une clause qui a été négociée là aussi sous la pression du ministère de l'Intérieur, qui dit que la France se réserve le droit d'expulser les Algériens, puisque c'est la convention bilatérale France-Algérie, qui sont oisifs, c'est-à-dire qui ne peuvent prouver qu'ils ont un logement et un travail en France. Et c'est vrai que l'administration préfectorale va s'engouffrer dans cette brèche-là pour essayer de réguler d'une certaine manière cette immigration par ce biais-là. Ça va s'arrêter en fait, enfin ça va durer assez peu de temps, mais ça va quand même concerner quelques milliers de personnes. Ça va durer assez peu de temps parce que très vite le gouvernement algérien va recevoir des plaintes de la part de ceux qui sont éloignés violemment du territoire français et donc va demander des comptes à l'administration française. Et là c'est une différence très importante par rapport à la période coloniale, si vous voulez, c'est que durant la période coloniale, les Français musulmans d'Algérie sont leur état de rattachement, c'est l'État français. Et donc, ils sont protégés, d'une certaine manière. Enfin, le seul État qui peut les protéger, c'est l'État français, qui ne fait pas que les protéger, mais, au contraire, les opprime, les encadre, et en tout cas, constitue une forte contrainte. La différence, en fait, après l'indépendance, et c'est un fait très important qu'il faut avoir en tête, c'est que désormais, ces populations-là, elles sont susceptibles d'être protégées par un État, c'est l'État algérien, qui négocie, alors plus ou moins bien selon les périodes, selon le rapport de force, mais qui négocie avec l'État français.
Alexis Pierre, dans votre livre, ce que vous montrez au-delà du cas Algérie, c'est l'extraordinaire multiplicité et différence de statut qu'il peut y avoir au cours des 30 ans sur lesquels vous vous penchez entre les DOM, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, les colonies, les anciennes colonies. Ça fait une espèce de... on pourrait les citer tous ces statuts mis à bout, c'est très impressionnant. Qu'est-ce qui prévaut à ça? C'est vraiment l'incertitude, c'est un flou volontairement, un flou des statuts des étrangers volontairement mis en place. Qu'est-ce qui...
Je crois que durant cette période-là, il y a toujours l'idée. Alors c'est vrai que il va y avoir une pluralité de statuts liée au fait que, au fur et à mesure des indépendances, le gouvernement français va négocier à chaque fois par le biais de conventions bilatérales un statut spécifique avec le Sénégal, avec la Mauritanie, avec le Mali, etc., etc., concernant les dispositions qui règlent la circulation, l'installation en France, l'accès au marché du travail. Avec à chaque fois l'idée que il faut réserver à ces populations-là anciennement colonisées, anciennement sous domination française, un statut privilégié pour assurer le rayonnement de la France ou en tout cas préserver le rayonnement de la France à l'étranger. Et là aussi, ce qui est frappant, c'est le décalage qui va se faire entre ce droit très protecteur ou en tout cas ces dispositions juridique dérogatoire et très favorable à ces populations-là, y compris par exemple en termes d'accès à la nationalité française. C'est des populations qui peuvent demander à réintégrer la nationalité française par déclaration, et donc ça c'est très important évidemment, mais on va peut-être y venir à la fin de la conversation, mais ce droit très favorable, très protecteur, s'accompagne de pratiques qui elles sont très discriminatoires et justement qui d'une certaine manière compensent ce droit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut faire réfléchir aussi sur la période contemporaine. C'est cette idée de populations qui sont soumises directement à un régime à deux vitesses, un régime juridique qui en principe les place à égalité avec d'autres, ou en tout cas qui leur donne un certain nombre de droits très importants, et puis d'autre part les pratiques, la façon dont ce droit est appliqué ou la façon dont ces droits sont reconnus et qui sont très très éloignés de ce qui est écrit sur le papier.
Mais avant d'en venir à ces pratiques discriminatoires, on voit aussi que la France est l'objet de mesures législatives supranationales qui leur imposent un nouveau traitement de nouvelles catégories d'immigrés comme les étrangers en provenance de la communauté européenne ou encore les étrangers qui ressortent du statut de réfugiés politiques.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a aussi, c'est aussi une période où évidemment c'est la convention de Genève de 51 qui est ratifiée en France en 54. Il y a les ressortissants communautaires, vous en parliez. Là, ce qui est très frappant pour ces nouvelles catégories qui sont issues du droit international, c'est que à chaque fois le gouvernement français et en fait c'est l'administration française va tout faire pour résister à l'émergence de ce droit international, et en particulier en ce qui concerne l'accès au marché du travail. Si on prend la chronologie, si vous voulez, c'est que, par exemple, pour ce qui est des réfugiés, la Convention de 51, les hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur insistent auprès des représentants du gouvernement français pour que ils ne négocient pas, en tout cas, qu'ils n'octroient pas aux réfugiés un accès total au marché du travail français. Et de la même façon, le traité de Rome est signé en 57, si vous voulez, mais les hauts fonctionnaires vont tout faire pour retarder ce qu'on appelle en droit la traduction en droit interne des dispositions qui ont été prises alors, pour retarder ces dispositions, justement pour essayer de conserver une maîtrise des conditions d'accès au marché du travail. Donc on pourrait dire que même pour ces catégories qui a priori ne devraient pas poser problème, ou en tout cas devraient être privilégiées, il y a malgré tout des résistances, et en particulier une espèce de crispation sur la question du travail, de l'accès au marché du travail et de la protection de la main-d'œuvre nationale en l'occurrence.
On peut peut-être alors en venir à ces questions de discrimination, qui est un point important du bouquin, et qui est un point très, très nouveau, puisque vous apportez des éléments tout à fait objectifs à cette question-là de la discrimination, puisqu'on voit bien au travers des entretiens ou des extraits d'entretiens que vous proposez dans le livre, que les agents les préfectures ont des stéréotypes qu'ils mettent en œuvre dans leur activité quotidienne, voire des stéréotypes construits par les hauts administrateurs. Mais aussi, en vous appuyant sur les dossiers personnels et en faisant un comptage statistique des dossiers du personnel de la préfecture du Paris, vous avancez alors là des données très objectives sur la discrimination des étrangers en France dans cette période de 45 à 75.
Oui, alors peut-être ce qu'il faut rappeler, mais c'est vrai que là, c'est là aussi l'intérêt de travailler sur l'histoire, c'est que j'ai pu travailler sur des dossiers individuels d'étrangers, des dossiers de séjour, qui sont des dossiers achevés d'une certaine manière, c'est-à-dire où on peut reconstituer ce que j'ai appelé des carrières de papier, c'est-à-dire depuis l'admission sur le territoire, depuis la décision d'admission sur le territoire, on peut reconstituer l'ensemble des titres qui ont été octroyés à l'étranger jusqu'à son décès, jusqu'à sa naturalisation ou jusqu'à son départ de France, puisque là aussi on s'aperçoit en regardant ces dossiers individuels que il y a des choses auxquelles on pense pas, ou en tout cas qui sont passées sous silence quand on parle d'immigration. C'est le fait que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui repartent. Il y a près de la moitié des étrangers qui repartent. Donc le dossier de séjour s'arrête parce que ils décident de repartir au pays. Et là, c'est avant d'en venir à la question des discriminations, ça fait aborder un premier point qui me semble très très important et qu'il faut avoir à l'esprit là aussi pour comprendre la période contemporaine. C'est que j'ai fait une comparaison entre deux moments. Le moment 1956 et le moment 1975. Le moment où on est en période de croissance économique et d'ouverture d'une certaine manière à l'immigration. Et le moment 1975 où commence à se confirmer la fermeture, la période de récession, etc. Et on se rend compte que du point de vue de ces départs, du point de vue de ces formes de mobilité, finalement, c'est en période de croissance, économique, lorsque les frontières sont le plus ouvertes, lorsque l'administration est le plus ouverte à l'immigration, que il y a le plus d'aller-retour, d'une part, entre pays d'origine et la France. Et il y a le plus de départs définitifs. Et à partir du moment où on entre dans une période de restriction, où on ferme, justement, où on décide d'admettre de moins en moins de gens au séjour, c'est aussi une manière, d'une certaine manière, de dissuader les étrangers de repartir. Et j'ai envie de dire, la fermeture, on peut le voir, disons, statistique à l'appui, que la fermeture joue dans les deux sens, et que en fermant l'admission et en restreignant justement l'immigration, on contraint aussi d'une certaine manière, et ça je pense que c'est quelque chose qui est très important d'avoir en tête aujourd'hui, on contraint les étrangers qui sont déjà là à rester là parce que ils ont des stratégies et ils anticipent, et bien souvent ils ont peur de repartir parce qu'ils ont peur de pas pouvoir revenir. Et donc ça, c'est le premier point. Donc avant d'en venir aux questions des discriminations, c'est ce que fait comprendre en tout cas cette étude des dossiers individuels. L'autre point, c'est évidemment de voir à travers ces carrières de papier les différents statuts et les différents titres qui sont octroyés selon les catégories d'étrangers, avec plusieurs critères qui entrent en ligne de compte, la nationalité, le métier, la profession, et puis d'autres critères.
On peut peut-être parler de la nationalité, alors pour commencer, qui est un critère important. de discrimination.
Alors sur la nationalité, évidemment, c'est j'ai envie de dire c'est le premier critère qui vient. Ce qu'il faut savoir, c'est que le premier critère d'identification des étrangers, c'est leur nationalité. Alors il faut ajouter quelque chose pour cette période-là, mais c'est ce qui fait aussi son intérêt, c'est que il y a durant cette période-là, il y a assez peu de mesures de refus de séjour ou de l'enjeu n'est pas de savoir si on va admettre ou si on va admettre sur le territoire ou si on va refuser, parce que les besoins en main-d'œuvre sont tels que la plupart des étrangers qui en font la demande sont régularisés. Mais en revanche, on s'aperçoit qu'il y a de très très grandes différences dans les types de cartes qui sont octroyées. Et selon telle ou telle catégorie d'étrangers, l'administration donne plus ou moins rapidement une carte de 3 ans ou une carte de 10 ans. Et c'est là où ça permet d'introduire dans ces questions de discrimination quelque chose aussi qui est très important à mon avis pour comprendre la période contemporaine, c'est la question du temps et de la temporalité du droit et une sorte de mise à l'épreuve par le temps que les agents mettent en place parce que justement c'est un moyen pour eux de peser au-delà du droit et indépendamment du droit, de peser dans les formes d'application d'être plus ou moins favorable à telle ou telle catégorie. Alors sur la question à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que il y a un espace des nationalités plus ou moins favorable. Avec des tout en haut, alors ça dépend des périodes parce que ça change justement. Quand on se place dans les années 50, les étrangers les plus désirés sont les Italiens du Nord, et puis ceux qui sont tout en bas, c'est les réfugiés, parce que souvent c'est des réfugiés politiques espagnols qui sont soupçonnés d'être des subversifs, des communistes. Et puis, à cet espace de nationalité correspond un espace des pratiques administratives avec justement des manières d'octroyer des titres de séjour plus ou moins rapidement.
Par exemple le cas quand on fait une différence entre la gestion des Yougoslaves et des Hongrois, par exemple.
Là aussi, alors là on est dans les catégories intermédiaires, c'est très intéressant de voir que 1956 est une période où il y a plusieurs types de réfugiés qui arrivent en France. Il y a les Hongrois qui fuient 56, hein, Budapest 56, c'est l'époque où les chars soviétiques entrent à Budapest, et donc il y a beaucoup de Hongrois qui arrivent en France, d'une part, et puis d'autre part, il y a aussi beaucoup de Yougoslaves qui fuient le régime. Et là, c'est très intéressant de voir que il y a une dimension politique qui joue et que à statut égal, en tout cas, les réfugiés sont pas traités de la même manière et que les Hongrois sont vus de façon très très positive, très favorable, aussi parce qu'ils sont considérés comme assimilables. Souvent, ce sont des intellectuels, ce sont des étudiants, et alors que les Yougoslaves sont perçus beaucoup plus négativement, là aussi parce que alors pour des questions d'assimilabilité, pour des questions politiques, enfin il y a tout un tas de critères qui entrent en ligne de compte.
Alors on parle de ce type de différence géographique en fonction de la provenance des étrangers, mais est-ce qu'on peut constater des différences d'appréciation en fonction des préfectures? J'imagine que la préfecture de la Creuse ne se comporte pas de la même manière avec ses étrangers que celle de Paris.
Alors ça, j'ai envie de dire que c'est un travail qui reste à faire parce que dans le temps d'une thèse, j'ai pas pu mener cette comparaison entre plusieurs préfectures, mais je suis convaincu que c'est une chose à faire. En fait, il y a différentes manières de mener la comparaison, mais je suis convaincu que les sciences sociales doivent raisonner par le comparatisme, par la comparaison. Moi, j'ai fait un choix d'une comparaison dans le temps, en fait. Et c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai essayé de comparer à législation égale, à droit constant, entre deux périodes, entre 1956 et 1975, ce qui se passe dans une même préfecture. Et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a un autre livre à écrire sur... En prenant un moment donné, à un même moment, ce qui se passe entre différentes préfectures. Et là, à mon avis, on pourrait facilement montrer que ce que vous dites, c'est-à-dire que effectivement, avec un même cadre juridique, à une même période donnée, selon la conjoncture propre, la conjoncture locale, le droit n'est pas appliqué de la même manière, il n'est pas interprété de la même manière d'une préfecture à l'autre.
Notamment parce que les marchés du travail ne sont pas les mêmes et que le marché du travail guide très fortement l'appréciation des agents de la préfecture.
Alors oui, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui joue très fortement, évidemment, cette question du marché du travail. Mais il n'y a pas que celle, il y a pas que la question du marché du travail, hein, il y a aussi des questions de politiques quand on parle de réfugiés. Il y a aussi des rapports de force politique à l'intérieur d'un département. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on faisait cette étude sur la période contemporaine, je pense que l'une des variables majeures, évidemment, c'est la question du marché du travail, et ça ouvrirait tout un pan justement de cette analyse de l'administration, qui est comment les patrons, les chefs d'entreprise peuvent peser à telle ou telle période pour demander à l'administration d'être plus ou moins souple avec telle ou telle catégorie de travailleurs, et là aussi, selon les rapports de force locaux, comment l'administration répond à ces injonctions des chefs d'entreprise. Là, on a des exemples, à mon avis, dans le sud de la France, avec les contrats OMI ou sur les chantiers de Saint-Nazaire, où on voit que les patrons sur un marché local peuvent peser sur le statut qui est octroyé aux étrangers.
Toujours dans ce registre-là, il y a un exemple que tu donnes qui est frappant en partant des dossiers individuels, c'est que les professions intellectuelles ou les professions supérieures n'étaient pas très favorisées en 56, alors qu'elles le sont beaucoup plus en 75.
Oui, alors là aussi, c'est-à-dire que tout à l'heure j'ai parlé d'un espace des nationalités auquel correspond un espace de pratique, mais en fait il y a aussi un espace des professions, et c'est vrai que là, selon les besoins du marché du travail, il y a une manière d'adapter le droit et de privilégier telle ou telle profession. C'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît difficile de se le représenter, mais dans les années 50, on se rend compte que le fait d'être maçon, le fait d'être ou le fait d'appartenir à la catégorie ouvrière, même peu qualifiée, constitue un argument extrêmement favorable, alors que d'autres types de professions sont beaucoup plus stigmatisées ou mal vues, en particulier les professions très qualifiées, celles de cadre ou d'autres professions d'employés supérieurs. Et c'est vrai qu'il y a un retournement d'une certaine manière si on compare cette période-là à celle de 75, qui est plus proche de nous, et où on se rend compte qu'avec l'intensification de la crise, petit à petit, c'est la main-d'œuvre peu qualifiée qui va être considérée comme inutile ou en tout cas nuisible, et donc les choses vont être beaucoup plus difficiles pour les ouvriers peu qualifiés, et que la hiérarchie des professions va s'inverser, et c'est désormais les cadres et les professions très qualifiées qui vont être privilégiées au détriment des autres.